Bonjour, l'onde curieuse fait sa rentrée en lecture. Aujourd'hui, on délaisse notre véhicule pour une mobilette, un roman de Frédéric Poulsard qui nous emmène dans l'est de la France. Nous partons à la rencontre de Dominique, personnage aussi grand que son auteur, au guidon d'une 103 orange, une lecture passionnante à laquelle s'est livré Olivier Horry qui nous invite dans quelques instants à cette rencontre avec Frédéric Poulsard. Ce sera après les infos et le choix musical de l'onde curieuse. Première neige ce week-end sur la montagne ardéchoise. Première neige déjà quasi disparue, si ce n'est aux environs de Bourlatier et du Mézin. Ailleurs, c'est plutôt à la prudence que nous sommes appelés en raison du risque de verglas dans ces secteurs. Une occasion pour rappeler qu'au-delà de 500 mètres, notre département entre dans le territoire de la loi montagne, à savoir que tout véhicule doit être équipé de pneus neige ou 4 saisons, ou avoir dans son coffre des équipements type chaînes ou chaussettes de neige, et cela entre le 1er novembre et le 31 mars. L'association ADTC Avis de Tempête Cévenol appelle à la vigilance face à la recrudescence de projets éoliens sur les crêtes Cévenol. Selon l'association, de nouveaux projets seraient en préparation dans le secteur de Malars, des projets visant les crêtes au sud du col de Peyre. Et puis, le préfet de Haute-Loire a lui vu sa décision de refus d'un projet sur la commune de Lévastre, c'est une commune limitrophe de l'Ardèche, rejetée par la cour d'appel de Lyon. Celle-ci donne 3 mois au préfet pour délivrer une autorisation d'exploitation sur ce site qui se situe entre Saint-Agrève et le Mézin. Les associations locales qui rejettent ce projet vont donc se pourvoir en cassation. La DTC invite donc tous les citoyens, à être à l'écoute des projets qui pourraient refaire surface, notamment au moment où les députés discutent de la loi d'accélération des énergies renouvelables. La restitution des assises pour le développement de la vie associative par le département de l'Ardèche aura lieu mardi prochain, 15 novembre. Cette restitution, à laquelle sont invitées toutes les associations du territoire, fait suite à 6 rencontres dites de concertation qui ont été organisées entre fin novembre 2021 et le printemps 2022. Cette restitution, qui pourrait s'apparenter à une grande messe, aura lieu à l'hôtel du département mardi prochain dès 18h30. Dans le cadre de son appel à participation à la formation Éveil, pour entreprendre autrement, Âme Sud va organiser lundi prochain, 14 novembre, une rencontre autour des projets ESS, Économie sociale et solidaire, en zone rurale. Une occasion de rencontrer des porteurs de projets et des personnes ayant suivi les précédentes formations Éveil. Cela va se tenir dans les locaux de Pôle emploi à Aubenas. Inscription et informations complémentaires sur le site amesud.fr. Passe ton BAFA, la communauté de communes du Pays des Vents en Cévennes va proposer en 2023 d'accompagner 4 jeunes entre 17 et 25 ans habitant sur le territoire à l'obtention du BAFA. La communauté de communes leur propose une aide financière de l'ordre de 450 € pour passer le BAFA complet en un an. Attention, il n'y a que 4 places disponibles. Renseignements, inscriptions auprès des centres de loisirs, les Baladins et Revivre. À semaine de 4 jours, week-end de 3 jours. Et autant vous dire qu'en cette fin de semaine, il y aura sur le territoire une multitude de propositions festives et ou culturelles. En voici déjà quelques-unes à noter sur votre agenda. Jeudi soir, c'est le Festival Images et Paroles d'Afrique qui vous donne rendez-vous à l'USAS pour une soirée malgache au programme Projection Documentaire. Rencontre avec les associations L'Eau Vive et Le Même qui œuvre à Madagascar, avant un repas musical. Repas sur réservation à prendre au 07 82 48 13 95. À Aubenas, salle Le Bourneau, concert jeudi soir avec Ota Trio du jazz brésilien, avec aux commandes Otavio Menezes, entouré du bassiste Tanguy Blum et du percussionniste Dada Viana. C'est à 20h45, tarif de 5 à 8 euros. Du théâtre au Vence avec l'ART qui va jouer sa nouvelle pièce, Un air de famille, signé Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Ce sera jeudi à 21h, vendredi à 17h au Vence, au centre d'accueil. L'entrée est à 7 euros, ce sera gratuit pour les enfants. Un concert en accès libre vendredi après-midi, c'est à Saint-Privat avec La Petite Môme, une fable musicale qui vous emporte à l'époque d'Édith Piaf. Rendez-vous vendredi 14h30 à Saint-Privat, l'espace culturel. Ce spectacle tout public est en accès libre puisqu'il est en cours de création. Vendredi et samedi à Bourg-Saint-Andéol, les nouveaux-nés fêtent leur 31e anniversaire à l'occasion de la 4e nuit du cirque. Au menu film, exposition et bien entendu spectacle et soirée festive d'anniversaire samedi dès 20h. À noter que vous pourrez découvrir à cette occasion en avant-première le film documentaire de Christian Tran sur les nouveau-nés. Attention, jauge réduite, donc réservation fortement conseillée pour tous les rendez-vous de ces deux jours. Vous trouverez le programme complet au www.lacascade.org. La Nuit du Cirque, 4e édition, événement national, passera aussi par Valses-les-Bains avec au théâtre vendredi à 17h, Risette, par l'ensemble Tactus, un spectacle pour 3 musiciens et un circassien, musique et acrobatie donc pour ce spectacle à voir dès 7 ans, le tarif de 10 à 18 euros. À Mercué, au café associatif Le Pas de Côté, week-end en pays BT, la Côte d'Ivoire avec la saucisse pimentée, 3 jours de stage de percussion et de danse, vendredi, samedi et dimanche, ainsi qu'une table ronde et une scène ouverte vendredi soir à partir de 19h15. Réservation pour les stages auprès de la sauce pimentée au 06 21 67 28 29. Et ce n'est pas tout parce qu'il y aura encore Castagnade, vendredi et samedi du côté de Joannas, un premier festival mondial de la purée à Jaujac avec purée dure, spectacle, concert, surprise et purée, une fête de la patate vendredi à Tueil de 10h à 17h avec groupe folklorique, ou encore une fête de la soupe samedi à Lussas avec repas musical en soirée. Vous obtiendrez d'ailleurs plus d'infos sur cette fête de la soupe sur le site foyer rural de Lussas.org, et ce ne sont là que quelques exemples. Donc le week-end s'annonce très festif. Et d'ailleurs, pour débuter la semaine, on rappelle aussi que François Morel est ce soir l'invité du théâtre de Valses-les-Bains pour son spectacle « J'ai des doutes », un hommage au grand Raymond Devos, à voir dès 20h30 dans la limite des places encore disponibles. Il doit y en avoir un petit peu. Tarif 21 à 31 euros. Voilà pour l'info. Musique à présent dans l'onde curieuse avec Renaud. Renaud, ses chants. Oui, on s'écoute un vieil extrait de l'album Place de ma Mob, deuxième album, sorti en 1977, 45 ans déjà, et qui en fait n'a pas de nom, mais que l'on nomme communément ou Place de ma Mob, pour l'inscription qui était au recto de l'album, ou Laisse béton, du fait que ce soit le premier titre de cet opus et que ce fut le titre phare de cet album. Ici, on se réécoute la chanson du Loubard, avant de retrouver notre invité, Frédéric Ploussard, auteur de Mobilette, un roman qu'il vient nous présenter.
Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air sérieux. Sérieux. Je suis un loubard parmi tant d'autres. Je crèche pas loin de la défense. J'ai l'air crado, c'est pas ma faute. Mon HLM, c'est pas Byzance. Mon pote. Mon pote. À 14 ans, mon paternel m'a fait embaucher à l'usine. Deux jours plus tard, j'ai fait la belle. Pareil que je suis un fils indigne, bordel. Un soir, dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. C'est enflé, c'est enflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche, je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Je suis un loubard périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Aux flics, aux flics. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu, y'a ma bécane qui crame par terre. Bon Dieu, bon Dieu. Oh bon Dieu, bon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, oh bon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Voilà pour la mobilette de Renaud Séchan, 1977 déjà, la chanson du loubard. L'onde curieuse se prend au jeu du roman aujourd'hui. On découvre avec son auteur, Frédéric Ploussard, Mobilette, un entretien autour de ce livre, orchestré par Olivier Horry pour Fréquence 7, pour l'onde curieuse.
Je suis bien content de recevoir aujourd'hui Frédéric Ploussard, qui nous a servi un roman de toute beauté, Mobilette, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, et qui se lit avec beaucoup de plaisir. On va essayer de comprendre pourquoi. Frédéric Ploussard, bonjour.
Bonjour Olivier, je suis bien content d'être ici.
Eh bien alors comme ça, on est deux, et on va pouvoir commencer peut-être par un petit peu de ta prose. Et les arbres aux angles improbables, leurs racines souffreteuses, les troncs ravinés par l'acide ne m'avaient pas manqué. Les fougères, les ronces, les noisetiers aux couleurs de l'automne éternel, pas davantage. Des corneilles se battent au-dessus de moi, mes pieds subissent la succion à chaque pas. C'est vert et brun et noir, gris également, si on y intègre le nuage triste qui nous surplombe par-delà les frondaisons. La nature est rancunière dans les parages. Cette forêt s'étend sur plusieurs milliers d'hectares et ce que j'en vois correspond bien à l'image déprimante que j'en ai gardée. En contrebas du plateau que nous traversons, à une vingtaine de kilomètres vers l'ouest, se trouve une bourgade du nom de Clinquet, ancienne place forte construite à la sortie d'une vallée encaissée et autoproclamée capitale du Texas Lorrain, à l'époque du Texas Lorrain. Pendant des décennies, le village avait connu la prospérité grâce à la sidérurgie qui s'était développée alentour avant que cette dernière ne décline et ne renvoie toute son humanité à la maison ou au bistrot. La suie retombe sur les hauts fourneaux abandonnés, la pluie s'infiltre dans les anciennes galeries de mine. J'y suis né. Je suis Clinquin. Ma mère est Clinquine. Mon père, c'est autre chose. Voilà, je crois qu'on aura compris qu'il y a de la prose. En v'là de la prose, en v'là. Et bon, j'ai la petite habitude de faire des interviews en abécédaire, A, B, C, D, E, etc., etc., en fonction du temps qu'on me laisse. Et A, ben, comme artiste, bien sûr. Mais alors, au sens artisan, au sens arbeit, pour vraiment parler à l'est, hein, travail, etc. Parce que, non pas que votre écriture qu'on sente l'échafaudage et le faux fil, mais évidemment, on suppose qu'il y a du travail. Et moi, j'aurais bien aimé, en entame comme ça, que vous puissiez nous décrire par la voix, quoi, un petit peu votre atelier, votre façon de travailler.
Ma façon de travailler. Alors, j'ai été sculpteur avant d'être écrivain. J'ai écrit depuis assez longtemps, d'une manière en loisir, je dirais. Et puis depuis quelques années, je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Pour ce livre, mais comme pour d'autres manuscrits que j'ai, je pars d'une ou deux grandes idées, d'une ou deux grandes histoires que j'entremêle. Et puis j'y greffe d'autres petites histoires en essayant de trouver un rythme, une musique. Donc, ce qui fait qu'à un moment, j'ai dans l'écriture, j'ai une énorme patate. Hein, je mets ça un peu en lien avec la sculpture, comme une grosse pierre posée sur ma table avec plein d'histoires qui partent un peu dans tous les sens. Et une grosse partie de mon boulot, eh ben, c'est d'en enlever, c'est de trouver le rythme, c'est de trouver la musique, c'est d'emmener le lecteur. J'ai le souci, je pense, de ne pas perdre le lecteur, en tout cas, et puis de pouvoir lui donner à réfléchir, de pouvoir lui donner à rigoler, parce que ça me paraît très important, en lisant un texte qui, comme vous le dites, Olivier, c'est de la prose, certes, qui m'a demandé pas mal de boulot, mais pour que, justement, ce soit fluide et ouais. plaisant à lire.
Oui, et c'est le cas, et effectivement, on est embarqué par le style qui est un peu... Bon, ça m'a fait penser, allons-y, on balance, ça m'a fait penser au Queneau de Zazie dans le métro, qui pue donc tant. Ça m'a fait penser un petit peu à Émile Ajar, La vie devant soi, pourquoi pas, peut-être Céline aussi, etc. Un gros travaille sur le style. On sait que Céline travaillait énormément pour donner l'impression qu'il n'y a pas de travail, en fait. Et je suis surpris qu'à moitié, en fait, que vous ayez été sculpteur avant que d'être scripteur, parce qu'effectivement, cette idée qu'on enlève de la matière pour laisser de la dentelle, c'est quelque chose qu'on ressent, et qu'on ressent aussi par le côté drôle, plus que drôle, souvent de la prose. Alors voilà pour A, on est un peu plus au courant, c'est donc retour sur le texte, c'est travail, ça tombe pas comme
des
ça tout.
Des relectures, oui.
Beaucoup de relectures.
Beaucoup de relectures.
B comme bande originale. Voilà, parce que quand on vous lit, d'abord les personnages écoutent de la musique, c'est un peu vintage, hein, cassette, autoradio, etc. C'est mobilette hein, quand même. Hein.
Absolument.
Donc on sent la 103 Sport, on sent la Honda Amigo et puis la cassette. Voilà, c'est ça. Alors, la bande originale et la bande son, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en nous donnant des pistes? Bon, c'est quoi les albums? C'est quoi les groupes?
Ben moi, j'écoute essentiellement du rock'n'roll. Hein. C'est ce qui m'a ouvert au monde quand j'avais 15-16 ans. J'avais commencé par Pire, et heureusement, ça m'est tombé dessus. Et j'écoute toujours cette musique. J'écris pas mal en musique. Voilà, j'écris aussi, j'ai des enfants, j'écris avec les gosses. J'ai pas besoin spécialement d'une bulle de fraîcheur pour pouvoir écrire tranquillou. Et la musique fait effectivement partie de la chose. Des groupes comme Meudonnet, comme Lindorstone, comme Nirvana. Enfin, j'en ai plein. Hein. Je pourrais vous faire une liste sans fin, m'aide à travailler le texte et à trouver la musique du texte. Ce que je raconte parfois, ça m'est arrivé à certains moments du texte, dans certaines relectures, quand on travaille, on avance, d'un coup, les choses commencent à s'emboîter d'elles-mêmes, voilà, et ça devient merveilleux. Et il y a une musique qui sort du texte, et ça m'est arrivé 2-3 fois d'arrêter d'écrire, de relever la tête de mon texte et de me dire, tiens, j'ai arrêté la musique. Et en fait, j'en avais pas. Et là, ouais. Je sais que dans ces moments-là, les passages-là, ils sont bons.
Oui, je comprends. Donc c'est la musique du texte qui continue à tourner pendant que la musique de la chaîne s'était arrêtée, quoi, en quelque sorte. Oui, mais je crois que comme lecteur, on le sent très très bien. On sent effectivement que bon. Vous parlez de Nirvana, par exemple. On sent qu'effectivement, il peut y avoir du sombre, il peut y avoir du heavy, du métallique, il peut y avoir des tas de choses, de l'industriel.
Les Super Suckers aussi. Ouais.
Ah, on peut avoir un peu de... Bien. Ah oui, c'est quoi?
Les Super Suckers. Donc, ce qui veut dire, en gros, je crois Super Crétin, leur nom. Et ah, donc, oui. C'est un groupe australien de rock'n'roll très très bon, qui fait un peu de l'AC/DC, en différent, quoi. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup.
Les cloches de l'enfer également.
Oui, alors. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Il y a des incontournables, hein.
Ouais,
oui. Pas non plus.
Ouais. Mais ils sont australiens, c'est d'ici, non?
Ouais, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, les Australiens font du bon rock'n'roll.
Ouais, ouais, ouais. Angus Young. Je le vois sauter sur sa scène, là, comme ça, pendant qu'on parle, et votre texte, il fait parfois un peu cette impression.
Parfois, ouais. Ouais,
ouais, ouais. On sent que ça traverse la scène avec des riffs comme ça, etc. Ouais, ouais, ça marche plutôt bien. La BO, dans le salon. Enfin, je sais pas si vous écrivez dans le salon, mais.
Essentiellement, dans la cuisine.
Ah,
je pense
bien.
Que la présence du frigo me rassure. Ça doit être mon côté. J'ai menti, je ne manque plus. Et voilà, dans la cuisine qui donne sur le jardin. J'aime bien cet endroit. C'est là où je bosse.
Oui, et puis la cuisine, finalement, c'est un lieu pour se restaurer, mais c'est aussi un lieu pour travailler. Finalement, c'est assez logique. Oui, c'est vrai que c'est rassurant, la cuisine de frigo. Ouais. Pendant que la bande-son dans la cuisine s'arrête, la bande-son du bouquin continue, et c'est du rock, on va dire. Encore un truc de sculpteur, hein. On, finalement, d'une certaine manière, on n'en sort pas vraiment.
Hein. Non, c'est vrai, quand on fait de la sculpture, on ne peut pas trop écouter du jazz, parce que sinon, on n'entendrait pas.
A comme artisan, travailleur, artiste. B comme... bande originale, on a compris qu'elle était rock, cette bande originale, pour ces comiques. Alors, la vis comica, c'est une expression qu'on utilise dans le milieu du théâtre un petit peu. La vis comica, c'est la force comique, hein. C'est celle qui anime, je sais pas moi, Molière incontestablement, peut-être même, moi je suis retourné dans les Femmes de La Fontaine là, en ce moment, effectivement il y a la vis comica, hein, cette drôlerie là qui est transmise par le texte, et cette drôlerie elle est très présente, cette drôlerie, ce comique, avec ce rire est très présent dans le texte le provoque également. Comment on écrit quelque chose de drôle ?
Bonne question. Je pense que ça fait un certain temps que j'écris comme ça, de cette manière-là. Ça me permet de pouvoir un peu rire de tout, de pouvoir retourner un peu le quotidien d'une manière... Puis qui, à mon sens, le drôle donne à réfléchir également. Hein, après l'éclat de rire, on se dit, ouais, quand même. Moi, j'ai eu des lecteurs qui me disaient, je ris, et je me dis, tout en riant, je me dis, je ne devrais pas rire de ça. Et je trouvais ça très intéressant, parce que les sujets de Mobilette, à la base, sont pas foncièrement drôles, hein, puisqu'on parle d'enfants placés en foyer, et que l'action se déroule en Lorraine. Donc, ils sont quand même deux sujets qui sont pas drôles, à la base.
Non, c'est pas drôle.
Et il me semblait, mais je l'ai pas vraiment réfléchi comme ça. Ça me paraissait naturel, mais en tout cas, si je l'avais pas fait drôle, ça aurait été un bouquin très compliqué à lire, pas intéressant. J'aurais peut-être même pas été édité, pour tout dire. Voilà, c'était un peu. Oui. Et puis je pense que cette manière d'écrire, c'est un peu ma marque de fabrique. Tu vois, je travaille les chapitres pour qu'ils soient tous un peu, alors sans me la mettre trop haute, mais voilà, un diamant, quoi. Chaque chapitre doit se tenir, quoi. Il n'y a pas de chapitre de transition plus faible, à mon sens. Oui. Ou en tout cas, je n'ai pas travaillé comme ça.
Oui.
Je veux que chaque chapitre soit drôle, soit intriguant, soit intéressant, soit troublant. Mais c'est vrai que l'aspect comique semble, d'après les retours que j'en ai eus, transcender les autres.
Oui, complètement. Et puis, je témoigne aussi de la régularité du rire. C'est-à-dire, on tourne les pages, on les tourne effectivement assez facilement, parce que il y a du récit, il y a des aventures, il y a des personnages qui sont, comme on dit, hauts en couleur, enfin, etc. Mais il y a aussi cette ponctuation par le rire, dans le rire. Alors, le rire qui est provoqué par le jeu sur les mots, mais qui est aussi provoqué par les situations. J'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous fait rire ? Quelles sont les situations qui, chez vous, provoquent ce rire ? Enfin, la banane, glisser sur une banane, je sais pas.
Oui, enfin, voilà, mais toute situation pourrait me faire rire, quoi. C'est simplement, je pense, l'angle par lequel on l'aborde. Une situation d'une chute peut être très triste à la base, quoi. Mais ensuite, la manière de l'aborder peut devenir très marrante, quoi. Celle d'un mobilette qui a un problème avec un gros poisson, ça pourrait être vraiment une scène complètement d'angoisse, et c'est une scène assez drôle. Avec, je pense, un peu d'angoisse quand même.
Oui.
Et il y en a un certain nombre d'autres qui me paraissait, voilà, important à mettre pour le rythme du livre. Et cette façon d'être, je pense que pour moi, la réalité, je fais toujours un pas de côté. C'est-à-dire, je vois la réalité telle qu'elle est, donc on peut la trouver triste, on peut la trouver pesante, sans intérêt. Et j'aime faire ce pas de côté qui permet, pour moi, de lui donner une amplitude, une ampleur différente. Et d'amener le rire, d'amener un petit peu la distance, une légère distance qui permet, justement, voilà, de pouvoir éclater de rire sur certains moments, alors que, dans ces situations-là, notamment, voilà, les enfants placés à la base, il n'y a pas beaucoup de rire, quoi. Même s'il y en a, il y en a quand même certains, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est même, j'irai loin, mais peut-être, mais il y a des situations dans le roman, avec les gamins en particulier, qui sont même glaçantes, hein. Un peu infernal, enfin, quelque chose comme ça. Ça m'intéresse beaucoup, cette notion qu'il n'y a pas une chose qui est drôle, une chose qui n'est pas drôle, mais que c'est l'angle. Ça me fait un peu penser à T'es belle quand j'ai bu. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est curieux. C'est une question d'angle, hein, finalement, et d'état, ouais.
Bien sûr.
Y a pas une ivresse dans le rire aussi qu'on recherche ?
Une ivresse, oui, sûrement, mais aussi, voilà, une protection. Le rire protège. Le rire me protège. Le rire protège le livre. Et je pensais, pour en revenir à cet angle, effectivement, le héros fait donc 2 mètres. Et ça me paraissait important également d'aborder ça, parce qu'une personne qui, je me suis projeté, hein, puisque je ne fais qu'1m97, spéculer ce que pouvait vivre quelqu'un qui faisait 2 mètres.
Il semble bien que vous n'étiez pas si grand.
Non. Et donc, voilà, ça provoque un angle particulier. Parce que la personne qui fait 2 mètres dans notre société, dans notre monde, eh ben, elle baisse la tête tout le temps pour voir ses contemporains, pour voir le sol, pour voir ce qu'elle va se prendre dans la figure. Et ça paraissait déjà intéressant, cette vision un peu différente quoi, de notre monde. Ouais. Je pense que c'est une des bases de mon écriture.
Je ne suis pas tout petit non plus, effectivement. On a la taille pour se prendre des linteaux de porte quand même. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Lustres, surtout dans les vieilles maisons comme ça qui ont été faites pour des gens à 1m60.
Ouais, absolument. Moi, j'ai un angle mort. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont vraiment bas, donc c'est bon, je les vois, quoi, mais il y a un angle mort.
Ouais, ouais.
1m90, c'est là que...
C'est l'angle de la mort même, alors.
C'est l'angle de la bosse, en tout cas.
L'angle de la bosse, effectivement. Bon, ben voilà pour le comic. Bon, moi, je tiens à garantir au lecteur de Mobilette, là, de Frédéric Ploussard, dans qui on s'entretient pour le moment. Je témoigne en direction des lecteurs du fait que Mobilette, chez Héloïse d'Ormesson, est un livre qui fait rire. Moi, ça me faisait mal de rire. J'ai lu à une mauvaise période et j'en ai beaucoup voulu à l'auteur de me faire mal en me faisant rire. Ce qui est quand même assez particulier, quand même, tout de même. Alors, j'avais dubitatif. Parce que je rappelle que je suis dans un abécédaire. Dès comme dubitatif parce que on va peut-être pas traîner là-dessus, mais quand même le héros en particulier, on le sent quand même pris de sérieux doutes quant à l'organisation de l'éducation spécialisée, quant à son rapport, enfin ses rapports affectifs avec ses parents, sa petite amie, enfin etc. Il y a beaucoup de doutes hein, quand même, hein, et beaucoup de questions sur. Le livre était destiné à partager de ses doutes aussi.
Je pense, oui. Mais oui, ils étaient destinés à partager les doutes, en tout cas, que je peux avoir en tant qu'écrivain quant à l'éducation spécialisée. Et donc, mon héros est effectivement éducateur et je ne me voyais pas lui donner une vie lisse, basée sur l'humanitaire. Je m'occupe des enfants qui ont des problèmes parce que j'ai un grand cœur. Ça me gonfle profondément. Donc, je lui ai fait une vie, un passé avec des parents, je pense, qui sont assez intéressants. Hein. On a fait pas mal de retours sur les parents. Une vie de famille un peu compliquée, parce qu'il se retrouve père, et c'est pas simple, et que c'est pas parce qu'il est éducateur qu'il a toutes les solutions. Et je voulais donc qu'il y ait ce doute qui rebondisse un peu entre la vie du personnage, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, son enfance, cette région, cette si belle région de l'Est dans laquelle il évolue, et puis ses aventures loufoques et cocasses qui vont le mener...
Oui,
on va pas
divulgâcher en plus. Non. La maman, elle cadenasse quand même. Hein.
La maman, elle cadenasse, ouais. Ouais.
C'est son truc, hein.
Ouais, mais je trouvais ça intéressant.
Parce ah oui,
on est dans une société où le vol, on a peur du vol, et donc j'ai inventé une mère qui, elle, fait l'inverse.
Elle cadenasse tout.
Tout ce qui est de travers, tout ce qui lui semble mal garé, elle cadenasse les voitures, elle cadenasse les portes, elle ferme les choses, les forêts. Et je trouvais ce personnage très, très intéressant.
Elle a réussi à cadenasser son mari et son fils aussi, je sais pas.
Ben, elle a essayé, en tout cas. Ouais. Le fils, je pense, a réussi à partir. Et le mari fait un peu partie de ce cadenassage, quoi. Mais peut-être que lui-même est un cadenas, en fait.
Oui, c'est un petit peu un voleur.
Cadenas
aussi,
dangereux. Oui, mais un peu un voleur.
Votre père, c'est autre chose. Quoi.
Voilà, le père, mais c'est autre chose.
Le père du héros, naturellement. Ne confondons pas tout. Hein, c'est dangereux. Alors, je me suis pas... En fait, c'est la première lettre qui m'est venue, E comme Eden, et j'ai pensé à l'Est d'Eden, le roman de Steinbeck. Je sais pas si on va comparer votre roman à un roman de Steinbeck.
Un peu osé, mais bon.
Steinbeck est moins drôle en général, hein. Les raisins de la colère, c'est pas mort de rire. Des souris et des hommes non plus, peut pas dire. Et à l'Est d'Eden encore moins si possible, ouais. Mais moi, c'est l'histoire biblique qui m'a fasciné. C'est bon, la fermeture du paradis terrestre. Mmh. C'est fermé. On éteint les lumières. On ferme les portes. On fait dégager Caïn. On prend bien soin que le retour au jardin d'Éden soit impossible pour lui. Et il est renvoyé à l'Est d'Éden, justement, au pays de Nod, dit la Bible, Genèse chapitre 4, verset 16. Eh ben oui, on a des lettres ou on n'en a pas. Et au pays de Nod, donc à l'Est d'Éden, les savants disent que c'est l'Afghanistan. Alors, il y a deux choses. Il y a le paradis perdu. Paradise Lost, hein, c'est, ça aussi c'est de la littérature, John Milton. Paradise Lost, c'est aussi un groupe de rock d'ailleurs. Ouais, c'est un groupe de rock. Et puis c'est Le Paradis Perdu, et puis c'est pas l'enfer, mais quand même en face du paradis terrestre, c'est peut-être un petit peu l'enfer terrestre. Alors, est-ce qu'il y a une nostalgie d'un monde perdu chez vous ?
Non, pas particulièrement, mais effectivement, le monde perdu, à mon sens, l'est en Lorraine, l'a été avec la fermeture des mines, hein, qui a enlevé toute cette joie, cette notion de travail ensemble, voilà, de toute cette région tournée vers. Et cette fermeture des mines a renvoyé, comme vous le lisiez dans la première page, quoi, les gens au bistrot, et puis surtout le bled qui était le cœur du Texas Lorrain est redevenu ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un bled paumé, à vache, avec une rivière naze. Et c'était un peu la même chose. Et puis c'est également l'enfance, je pense, mon héros éducateur. Et c'est l'enfant... qu'on a tous été à un moment et puis qu'on n'est plus, que la vie fait, que l'enfance se perd, se dilue, et on a intérêt à pas l'oublier. Et je pense que c'est ça. Je voulais également expliquer dans Mobilette, enfin aborder, c'est que ces enfants placés sont des enfants avant tout, et les rendre, eux, intéressants, attirants, plaisants, alors qu'à la base, c'est des teignes. Mais je pense expliquer pourquoi ils le sont. Et ce héros, plein de doutes, et ben il l'est en partie parce que lui, il a pas oublié l'enfant qu'il était. Et de fait, comme ses parents sont bien accrochés au linteau, quoi, son enfance n'a pas été simple. Et ça rajoute à cette réflexion qu'il a sur la vie. Et voilà. Mais je pense que c'est pas une nostalgie. C'est plus montrer la vie telle qu'elle est. C'est ça. On peut rire dans la pire muise. C'est bien cela qui me paraissait intéressant.
Et éventuellement construire, donc ça peut être écrire, ça peut être continuer à s'occuper de gamins, ça peut être des tas de choses qui mettent un petit peu de lumière dans le truc, quoi.
Bien sûr, une quête de sens. Mais on est tous là, je pense, on cherche un sens.
Complètement. Ouais.
On voit bien ce que le Covid a pu donner sur certaines personnes, se rendant compte qu'ils habitaient pas au bon endroit, par exemple. Ouais. Qu'enfermés chez eux, ils devenaient dingues. Et je pense qu'on en est là, que le sens est quand même très important dans la vie, qu'on peut pas être simplement un pion, bêtement, mais voilà, de laisser vivre un peu ses passions et de pas oublier l'enfant qu'on a été. Et puis de pouvoir rigoler autant que faire se peut, parce que la vie sans rire, c'est quand même bien chiant.
Mais en vous entendant, d'ailleurs, c'est un autre sentiment que j'ai eu en lisant Mobilette, qui d'ailleurs, je le signale avant de l'oublier, vu qu'il y a beaucoup de vent dans ma tête, que Mobilette, donc de Frédéric Poussard, qui est publié par Héloïse d'Ormesson, se trouve maintenant aussi en pocket. Donc vous n'avez plus aucune excuse.
Et puis, À partir de mars.
Ouais.
En pocket, c'est en mars.
Quel beau destin quand même pour un livre que d'être disponible en poche pour à peu près tout le monde, parce que franchement...
Alors ça, je suis très content, ouais. En poche, j'ai également grand caractère en édition, il a été édité en braille, ça c'est super, c'est ma première traduction. Mais donc il est édité en braille, j'avais jamais vu un bouquin en braille, voilà. Et ça me fait très plaisir, tous les supports de lecture m'importent beaucoup.
Bon, bah alors sur un plateau, j'ai une petite conclusion brève, puisqu'on parle de braille, d'aveugle. Moi, votre livre, il m'a fait au contraire naître beaucoup d'images, à tel point que je me suis demandé si c'était pas un bouquin fait pour être porté à l'écran. Vous avez les images, vous aviez des images déjà en écrivant?
Oui, mais j'ai les images en écrivant. Quand je cherche un endroit, je le cherche, et puis il faut que ça colle, il faut qu'à un moment je puisse me promener à l'intérieur. Je prends l'exemple par exemple de la famille d'accueil dans les Vosges. J'ai du mal à trouver l'endroit, à créer l'endroit. Je me balade dans les Vosges, je le connais, les Vosges, et je voulais quelque chose. Et à un moment, alors sans revenir sur cette notion de travail, mais de relecture, de recherche, et puis ça peut être n'importe quoi qui me traverse l'esprit dans la journée, je me dis, ah mais c'est ça, voilà. Quand j'ai trouvé la hyène, eh bien, j'étais tout content, ça m'a fait ma semaine, hyène. Et donc voilà, effectivement, je me promène dans les endroits, je les visualise complètement, donc ça se ressent dans mon écriture, quoi.
Ouais,
et quelque part, j'amène le lecteur à lui aussi les visualiser, puisque je lui en donne suffisamment, je pense, pour pouvoir se repérer, même s'il ne connaît pas les Vosges, même s'il ne connaît pas...
Alors quand on connaît, en plus, je confirme, donc d'une part, rendez-vous bientôt dans nos salles pour mobilette.
J'aimerais bien.
On pourrait imaginer, on pourrait commencer à gratter un réalisateur, et puis des producteurs surtout. Bien sûr. Effectivement, mais c'est là où habite la famille d'accueil dans les Vosges. Moi, j'ai eu les images d'une maison dans les Vosges où nous avait accueilli notre prof de philo quand j'étais en prépa. J'ai vu la maison. Mm-hmm. C'est quelque chose de... Ah oui, c'est affolant. C'est quelque chose de merveilleux. Bon. Il va falloir se laisser. Mmh. Bon, ben, j'avais l'intuition.
Ça passe vite.
J'avais l'intuition. J'étais content de vous recevoir. Je suis content de vous avoir reçu.
Mais pareillement, Olivier. Un grand plaisir. Hein.
Merci. Merci beaucoup. Je serais presque ému. Ma parole. Mmh. Allez, lisez Mobilette de Frédéric Poussard chez Héloïse d'Ormesson. Et en mars, voilà. En pocket.
Tchao, et pensez-y pour les cadeaux de Noël également. Ouais. Merci à vous.
Voilà l'onde curieuse qui se referme après cet entretien proposé par Olivier Horry, donc vous l'avez compris, avec à ses côtés Frédéric Ploussard autour de son roman Mobilette. Alors on va refermer avec les rendez-vous à venir sur les ondes de fréquence 7. Bah vous allez retrouver Olivier dans quelques temps si vous nous suivez en direct, puisque ce sera l'heure des jardins suspendus à 13h. À 15h, place au Télex. À 17h, cette émission sera rediffusée. Aujourd'hui, contrairement aux habitudes, à 18h, vous ne retrouverez pas Solidaire d'abord, tout simplement parce que la semaine dernière c'était la période de vacances. Et puis à 21h ce soir, rediffusion d'Hexagone Jazz présenté par Digistef. L'onde curieuse de demain, eh bien, elle sera en déplacement du côté de la Biocoop, les gâteaux bio à Saint-Didier sous Aubenas, tout simplement parce que cette Biocoop vient de changer de propriétaire et surtout vient de changer de statut. On va voir comment des salariés ont repris cette entreprise, ont racheté cette entreprise sous forme de SCOP. On discutera avec certains d'entre eux directement là-bas, depuis les gâteaux bio à Saint-Didier. Voilà, merci pour cette émission. Merci à Olivier d'avoir pris le relais. Donc on se retrouve demain, 12h ou 17h, pour l'onde curieuse. Demain, mais aussi jeudi. Bye bye.